Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Cinérama. Nous sommes le mercredi 25 février et c'est Marine, je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Alors aujourd'hui, en vertu des super pouvoirs qui nous sont conférés, nous avons vraiment une émission super-héros, on peut le dire. De quoi vas-tu nous parler ?
Eh ben, d'un film presque, enfin, c'est pas un film de super-héros, hein, Kingsman, mais c'est traité un peu de cette façon-là. Et puis je vais donc vous parler de Réalité, le nouveau film de Quentin Dupieux. Et si le temps me le permet, peut-être je vais vous évoquer un film sur le giallo. Mais bon,
oui, afin de donc poursuivre ton cycle,
voilà,
sur
mais
le.
Mais a priori, c'est pas sûr. Hein.
Moi, pour ma part, eh bien, je vous parlerai après une Kingsman de Birdman, le film qui a eu l'Oscar du meilleur film samedi soir, ainsi que un film de super-héros français, Vincent n'a pas d'écailles. Et si Vincent n'a pas d'écailles, eh bien, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a néanmoins une interview, l'interview de Jean-Jacques Hano pour son nouveau film que nous pourrons entendre tout à l'heure. Et on commence tout de suite avec Birdman, c'est Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Dès les premières images, vous vous retrouvez embarqué dans un plan séquence labyrinthesque qui ne s'arrêtera jamais pendant les deux heures que dure Birdman. Michael Keaton interprète une ancienne gloire de Hollywood dont le nom restera toujours accolé à celui de Birdman, le rôle qu'il a rendu célèbre et qui décide de relancer un jour sa carrière en adaptant à Broadway une célèbre pièce de théâtre. Autour de lui gravite sa fille qui sort de désintox, son ex-femme, son agent et les divers comédiens de la pièce dont le rôle principal est interprété par le difficile Edward Norton. Mais tapis dans l'ombre, ou peut-être juste dans sa tête, la voix de Birdman ne cesse de résonner, lui rappelant la légende qu'il a été et qui ne demande qu'à devenir à nouveau.
Qu'est-ce qu'on fout là ? Ça sent le slip. On avait tout. Tu étais une star, tu t'en souviens ?
Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous montez cette pièce pour vous débarrasser de cette image de super-héros au rancard qui vous colle à la peau ?
Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'il y a déjà 20 ans, j'ai refusé de participer au tournage de Birdman 4.
Birdman 4 ? Oh ! Vous faites de Birdman 4 ?
Sois lucide, papa ! Tu sais pourquoi tu fais ça ? Parce que t'as trop la trouille d'être comme tout le monde, la trouille de pas compter !
Et maintenant, tu vas foutre en l'air ce qui reste de ta carrière. Oh ! On aurait dû accepter cette émission de télé-réalité.
Ta gueule.
Tu sais que j'ai raison.
Ta gueule.
Commence à me faire chier!
Hein? Ça va?
Tu devrais essayer de te reposer.
T'as pas compris? C'est toi le vrai super-héros!
Le long plan séquence qui parcourt les couloirs du théâtre et les rues de la ville se joue de la temporalité et brouille volontairement les frontières entre réalité, cinéma, théâtre et rêve, inventant, on peut le dire, une mise en scène totalement inédite. C'est une nouvelle mise en abîme sarcastique de Hollywood vue par Hollywood, un thème de prédilection quand même cette année puisqu'on a notamment vu The Canyons et Maps to the Stars sur le même thème, dans laquelle on se moque allègrement des acteurs, du public, des journalistes et qui ne se privent pas de critiquer la critique, justement. Les acteurs sont tous parfaitement à contre-emploi et tous parfaitement justes, qu'il s'agisse de Emma Stone, Naomi Watts ou des revenants Keaton et Norton qui s'affrontent dans un duel d'acteurs improbable et truculent. Il faut dire que l'un comme l'autre n'avait pas eu un rôle digne de ce nom quand même depuis environ le siècle dernier. Oscarisé samedi, Birdman est donc officiellement le meilleur film de 2014. C'est en effet un exercice de style majeur dont on ne pourra qu'apprécier l'ambition et la parfaite réalisation. Cependant, la mise en scène, si bluffante soit-elle, se regarde un peu trop, au point parfois de délaisser l'émotion. Si la volonté première de Iñárritu est bien de tendre avec cynisme un miroir à Hollywood, la prouesse technique que constitue le film a tendance à nous faire oublier cette critique sous-jacente, justement, au point que certains personnages se retrouvent tout simplement sacrifiés dans cette espèce de film choral assourdissant. Alors, bon, ceci n'est quand même presque qu'un détail, hein, tant le film vraiment demeure réellement impressionnant, c'est à voir. Birdman, donc, de Alejandro González Iñárritu, Oscar du meilleur film 2014, ça sort aujourd'hui en salle partout en France. Il y a énormément de choses à dire sur ce film qui est particulièrement riche. Le plus simple, c'est d'aller le voir et vous pourrez constater à quel point c'est une expérience visuelle unique. C'est Cinérama et après Birdman, on enchaîne sur Kingsman.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Ah, pendant un moment, j'ai cru revivre le calvaire, hein, dans une moindre mesure, d'endurer avec Charlie Mordecai. Alors, même univers british forcé, même humour pesant, même côté un peu pop ultra référentiel aux 60s, même hystérie visuelle parasitant un récit d'espionnage convenu. Alors, le nom de Matthew Vaughn aux commandes est pourtant un gage de qualité. Le réalisateur inspiré de, bah, je trouve que de l'excellent Kick-Ass et du meilleur des X-Men, Le Commencement. Alors, serait-il pris de la même panne d'inspiration que David Cup, qui était lui aussi un bon réalisateur? Alors, un bon point tout de même, on n'a pas à se farcir les mimiques insupportables de Johnny Depp, qui est en train d'ailleurs de supplanter tous les Marlon Brando ou Jack Nicholson. Question performance ridicule en fin de carrière. Alors, le plutôt classe et, bon, en ce qui me concerne aussi un peu fadasse, Colin Firth incarne un agent secret à l'ancienne, tout droit sorti d'un roman de Ian Fleming, qui doit entraîner un ex-délinquant londonien au sein d'une unité d'élite d'espionnage. Alors, en parallèle, des célébrités du monde entier sont kidnappées, ce qui suscite l'inquiétude des autorités britanniques.
Nous sommes une agence internationale et indépendante de renseignement, opérant à un très haut niveau de discrétion.
Ça, c'était la une du journal le lendemain du jour où j'ai désamorcé une bombe à Berlin.
À la une des journaux, en toutes ces occasions, il n'y avait que des idioties. C'est la nature de Kingsman que nos réussites restent secrètes.
Jusqu'où qu'elle va descendre, cette machine ?
Assez profond. Être un Kingsman n'a rien à voir avec les origines de sa naissance. Si tu es prêt à t'adapter, à apprendre, tu peux tout changer.
Ça, c'est dingue. Oh yes, charmé, excellent.
Intéressé ?
De toute façon, j'ai plus grand-chose à perdre.
Oh, il y a beaucoup à perdre. Ça, je vous le garantis.
Valentine est une menace qui nous affecte tous.
Un génocide de masse ?
Ça, j'adore.
Vous êtes complètement cinglés.
Ça, j'en ai rien à foutre.
Alors, adapté d'un comic book de Mark Millar, d'ailleurs Kick-Ass, justement, hein, et Dave Gibbons, l'auteur des Watchmen. Alors, Kingsman Service Secret a du mal à décoller durant la première heure. Les scènes d'action sont assez mal réglées, l'humour ne fonctionne pas, le numéro de bouffon de Samuel Jackson énerve et les effets numériques se révèlent pénibles. Bref, ça sent le sapin. Tout évoque un Spy Kids à peine mieux torché. Mais miracle, la narration déficiente de la première partie se voit boostée dès que les jeunes recrues ont fini leur entraînement. Le dérapage incontrôlé du film se situe à un moment crucial où Matthew Vaughn fait éclater en morceaux le politiquement correct qui planait tranquillement sur son film. Alors ce moment clé arrive lorsque le jeune prolétaire s'avoue battu, sa conscience morale l'empêche de sacrifier un chien. Après, tout se déglingue dans un grand moment de cinéma subversif, d'une violence inouïe à l'égard des élites qui vont en prendre plein la tête, aux propres comme aux figurés. Je ne vais pas en dire plus. Il fallait oser cette séquence finale où le héros, issu de la banlieue londonienne, s'en va sodomiser dans la joie et la bonne humeur avec une coupe de champagne à la main, une princesse nordique, tout ce qu'il y a de plus consentante. C'est véridique, hein ? Alors, on ne peut pas faire plus clair. La métaphore joyeusement un art et contestataire est alors au service d'un spectacle visuellement étourdissant, alors que tout le début laissait présager le pire. Les références bien senties au cinéma d'espionnage des années 60 abondent. Les chorégraphies prennent de la vitesse et deviennent jouissives par leur côté outré. Et les acteurs procurent un véritable plaisir communicatif, à commencer par l'impérial et éternel Michael Caine, un habitué de ce type de production. Une référence à lui tout seul. Hein. Il a incarné... un nombre incalculable d'agents secrets dans les années 60 et 70. Alors Kingsman retrouve alors la verve satirique et pamphlétaire, je dirais, de délire pelliculé comme Starship Trooper, Battle Royale, Los Angeles 2013 et surtout Mars Attack, avec qui il partage plus d'un point commun, notamment son atmosphère un peu décontractée et pète plomb. Voilà, le film se clôt par un véritable feu d'artifice, hautement culotté, d'une violence graphique inhabituelle pour ce genre de production, ce qui nous fait quand même regretter la première heure, vraiment laborieuse. Hein. Dommage, parce que Matthew Vaughn tenait presque un grand film s'il l'avait expurgé au moins de 30 minutes. Et le film a le malheur de durer 2h10. Et c'est un peu le problème, je pense, de beaucoup de productions hollywoodiennes aujourd'hui, d'être beaucoup trop longues avec des scènes d'exposition qui sont souvent inutiles. Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'on doit prendre les spectateurs pour des benets. Il faut tout surligner, expliquer, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun intérêt, en fait. Hein, voilà.
Eh bien, merci Manu. Tout de suite, on va continuer avec donc une interview réalisée par Vincent, interview de Jean-Jacques Hano qu'il a rencontré à l'occasion de la présentation de son nouveau film, Le Dernier Loup, tourné en Chine. On écoute tout de suite Vincent, c'est Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama,
On va regarder ça.
Après Or Noir qui nous emmenait au début de l'exploitation pétrolière en péninsule arabique, film produit justement avec l'argent du pétrole, qui fut avec moins de 300 000 entrées en France un échec total, Jean-Jacques Hano revient cette fois-ci avec un film produit par une société chinoise, un film qui parle aux Chinois. Adapté d'un roman, Le Totem du Loup, best-seller de 20 millions d'exemplaires, qui retrace l'après-révolution culturelle dans une région de la Mongolie intérieure où vivent des loups, vus par deux Chinois venus de Pékin, Le Dernier Loup nous raconte comment ces loups vont être menacés par l'homme et en filigrane les rapports entre ville et campagne, entre tradition et modernité, entre croyances et lignes du parti communiste, pourquoi pas. Jean-Jacques Hano, homme délicieux en interview, nous raconte comment il est vu en Chine, son rapport au livre qu'il a adapté et sa relation compliquée avec les loups sur le tournage.
Ces deux jeunes instruits vont vivre avec vous pendant 2 ans. En échange, ils apprendront aux enfants à lire et à écrire le chinois.
Bonjour.
Les loups sont fascinants. J'aimerais capturer un louveteau pour pouvoir l'étudier.
Le film est dans la droite ligne de mes autres travaux. Et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, j'avais fait un film qui n'avait pas beaucoup plu là-bas, aux autorités, et je n'étais pas le bienvenu. Lorsqu'un groupe de Chinois est venu me voir à Paris, je leur ai rappelé ce phénomène, et ils m'ont dit, avec un délicieux sourire, ils m'ont dit, écoutez, la Chine a changé, ils ont laissé un temps, ils ont dit, et puis nous sommes des gens pragmatiques, ils ont laissé encore un petit temps, et on a besoin de vous. Là, ils ont ri, et depuis ce jour-là, je dois dire que l'accueil qui m'a été réservé a été absolument exceptionnel, d'affection, de gentillesse. D'abord parce que je crois que tout le monde a compris que j'ai été très séduit par mes premiers jours en Chine, par mon premier voyage en Mongolie, 3 semaines avec l'auteur de ce roman qui a fait le triomphe absolu depuis Le Petit Livre Rouge de Mao. Et j'ai eu la joie de parcourir et découvrir la Mongolie avec cet homme et avec son copain, le gars qu'on voit dans le film avec lui, a comme lui été fasciné par la Mongolie, ne s'est jamais remis de ce séjour qu'il avait passé pendant la révolution culturelle et est devenu le peintre de la Mongolie. Si bien que j'ai eu cette chance extraordinaire d'être avec des Chinois venant de la ville, mais amoureux de la Mongolie, connaissant plein de copains en Mongolie, et du coup tout ça était tellement joyeux. Et lorsque je n'avais pas compris, qui m'a beaucoup flatté, je dois dire, je ne savais pas que mes films avaient été très vus en Chine. Ils sont même l'objet, beaucoup d'entre eux, de passages obligatoires dans les universités, dans les académies de cinéma. Donc tous les gens que je rencontrais avaient vu mes films. Mon film le plus vu là-bas est un de mes films interdits, c'est L'Amant. Mais c'est le paradoxe de ce pays tellement incroyable, c'est que ce soit des officiels ou des gouverneurs de province ou des éleveurs de moutons, tout le monde a vu le film. Mais il est interdit. Mais tout le monde sait que tout le monde l'a. Et il est en vente libre aussi. Mais il a été interdit d'écran. Tolly Leung est devenu immense star. Et j'ai d'ailleurs appris il y a 15 jours qu'il avait un surnom. C'est Monsieur Jolifesse.
J'ai également reçu de la hiérarchie cette directive. Pour éliminer les louveteaux dans les tanières. Tuer les louveteaux, ça permettra d'en réduire le nombre.
Si on tue leurs petits, ils vont être furieux et ils vont se venger.
Ceci est un ordre.
Le film ne suit pas tout à fait le livre. Je pense que ma responsabilité, quand je fais une adaptation littéraire, c'est de mettre à l'écran ce qui, moi, m'a plu. Un autre metteur en scène aurait choisi d'autres scènes. Moi, quand j'ai lu le livre, il y a quelques scènes qui m'ont fasciné, des personnages qui m'ont énormément plu, et puis après, j'ai énormément coupé de choses et rajouté d'autres choses. Le sens profond du film, celui dont j'ai même pas envie de parler parce qu'il faut le voir pour le comprendre, parce qu'autrement ça ressemble à un message. Ça, ils ont vu que là-dessus, je suis tout à fait dans la ligne de la raison pour laquelle il a voulu faire ce livre. Donc, s'il vous plaît, c'est un peu comme quand j'ai fait Le Nom de la Rose. J'ai un très bon rapport avec Umberto Eco, même si j'ai changé beaucoup de choses. On me l'a beaucoup reproché à l'époque d'avoir changé beaucoup de choses. Sauf que Umberto m'a toujours soutenu parce qu'il a dit « tu as respecté l'essentiel ». Et forcément qu'un livre qui demande une semaine de lecture, un livre de 600 pages, moi j'en fais un film d'1h45, Bah forcément que je peux pas tout mettre, autrement ça durerait 70 heures le film. Alors c'est peut-être une expérience intéressante aussi, mais il y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont 70 heures à consacrer pour aller voir un film.
Oui, je l'avoue, c'est moi. C'est moi qui l'élève.
Ils entendent les appels de leurs petits et viennent leur prendre. Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp.
Réfléchis un peu, laisse-le partir.
J'en ai assez. C'est moi qui le nourris et c'est moi qui l'aime.
T'as capturé un dieu pour en faire ton esclave. Tu le paieras un jour.
C'était très affectueux, mais quand même un petit peu dangereux, vous voyez. Parce que quand vous avez 50 kilos de passion, là, avec des crocs, 50 kilos de passion, déjà, bon, on peut faire, mais les crocs, mais c'est des dents de requin qu'ils ont. J'étais franchement inquiet qu'ils me déchirent le nez ou qu'ils m'enlèvent une oreille. Parce que il y avait quelque chose, ils ne se calmaient pas. Ils me voyaient ben, comme d'autres côtés de la place. Il allait à fond la caisse, moi je l'attendais comme ça, comme un lutteur, si vous voulez, et paf, il me sautait dessus, les deux pattes sur les épaules, et... Mais, alors, vous savez, 10 secondes, 20 secondes, au bout de 30 secondes, il faisait le tour, il se frottait contre moi, et là, ça repartait, et je te tire l'oreille, et je te mange la joue. Ce qui était extraordinaire, c'est que quand j'essayais de me planquer, parce que des fois, le matin, je n'étais pas forcément... Vous savez, on ne se lève pas tous les jours dans cet esprit-là. Je me planquais, je rasais un peu les camions, et puis j'allais me planquer dans la camionnette où il y avait les écrans, ou la tente, il y avait les écrans. Et là, les caméras se réglaient, je voyais le loup qui était là. Il reniflait partout, et il y avait le dresseur qui disait, « Bon, hey, JJ, come and get it out of his system. Fais que ça disparaisse de son système nerveux. » Donc, je me mettais un anorak, indéchirable, sans poche, la capuche, j'enlevais mes lunettes, mon assistante prenait un paquet de Kleenex, un litre d'eau, du désinfectant, et on y allait. Et hop, je me rentrais dans la barrière des loups, et roule ma poule.
Le Dernier Loup est un film taillé pour le marché chinois, une épopée filmée dans des paysages et des lumières de la steppe forcément photogéniques, avec quelques scènes impressionnantes qui mêlent chevaux, tempêtes de neige, hommes et loups. Mais Le Dernier Loup reste peut-être aussi un film classique, sans âge, sans souffle, sans fantaisie, avec une histoire qui s'écarte peut-être un peu trop de la grande histoire.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis, et même saloperie, hein.
Et on poursuit Cinérama avec Vincent n'a pas d'écailles. Vincent n'a pas d'écailles, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de super pouvoirs. Car lorsque Vincent est en contact de l'eau, ses forces se décuplent. D'ailleurs, il n'y a que dans l'eau qu'il se sent bien, c'est pourquoi il part dans le sud de la France. Oui, bizarrement, il ne choisit pas d'aller en Bretagne, hein, alors que bon, on y trouve aussi pas mal d'eau, afin de pouvoir y vivre sa différence à l'abri des regards. Car Vincent n'aspire pas à sauver l'humanité, non, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir nager à longueur de journée dans les torrents. Jusqu'au jour où il rencontre Lucie, une jeune femme avec qui il va partager son secret.
Tu diras rien, hein ? Faudra rien dire à personne.
Ok.
Écrit, réalisé et interprété par Thomas Salvador dont c'est la première incursion au cinéma, Vincent n'a pas d'écailles est une sorte d'ovni qui allie avec pas mal de fraîcheur le cinéma d'auteur et le film de super-héros. En donnant un visage vierge inconnu du public à ce personnage de super-héros très discret, Thomas Salvador s'interroge surtout sur les difficultés à vivre une existence normale avec des super-pouvoirs qui vous font passer pour un monstre auprès du commun des mortels. Ce film de super-héros intimiste a presque une dimension sociale puisque les pouvoirs de Vincent l'obligent à vivre en marge de la société et à adopter un mode de vie nomade, voire à renoncer à l'amour. On pense d'ailleurs à Ricky de François Ozon, ce film dans lequel Alexandra Lamy tentait de survivre au chômage tout en s'occupant de son bébé qui avait la particularité de pouvoir voler. On pense également à L'inconnu du lac de Alain Guiraudy pour son ambiance bucolique qui constitue un personnage à part entière et au sein de laquelle le fantastique surgit. Mais si Vincent n'a pas d'écailles, il n'est pas pour autant dépourvu de fantaisie. La caution comique du film, c'est Vimala Ponce qui interprète sa petite amie et qui apporte ici beaucoup de fraîcheur, comme dans La fille du 14 juillet, très sympathique comédie qu'il avait révélée. Elle amène une bonne dose de spontanéité ainsi que ses talents d'acrobate puisqu'elle est à la base circassienne. Il y a une scène de parodie de baiser de Spider-Man où en fait c'est elle qui est suspendue par les pieds dans un arbre et donc qui embrasse son copain. C'est une scène assez mignonne, assez drôle. Voilà, tourné en décor naturel et avec uniquement des effets spéciaux mécaniques et non numériques, Vincent n'a pas d'écaille est une première réalisation assez inclassable mais très jolie. Je vous le conseille, hein, histoire de faire une pause entre Iron Man 8, The Avengers 12 et puis Batman, le rebook du préquel de la suite numéro 45. Ça fait un petit peu du bien de voir des films comme ça aussi dans ce paysage plein de super-héros. Voilà, on continue Cinérama avec tout de suite Manu, tu nous parles de réalité de Quentin Dupieux, c'est Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors au cœur d'un entrelacte de récits gigognes, une histoire s'impose, celle de Jason, un cadreur de plateau télé qui souhaite réaliser un film d'horreur, Waves, où des téléviseurs tuent les gens par le biais d'ondes mortelles. Alors un sujet qui fait écho par ailleurs à un film que j'ai vu dans les années 80 qui s'appelle Halloween 3, le sang du sorcier de Tommy Lee Wallace. Il soumet l'idée à un producteur complètement allumé, enchanté par le projet, à condition que Jason trouve en 48 heures le hurlement parfait. La rencontre entre l'apprenti cinéaste et le producteur procure de savoureuses séquences grâce à des dialogues hilarants et un sens parfait du timing. Mais autour de ce pitch va se greffer une multitude de récits, cauchemars, rêves, fictions qui se croisent, s'entrechoquent, se frottent entre eux d'une façon à la fois inattendue et logique. Alors tout s'imbrique hein, sans que jamais l'on ne distingue ce qui appartient au réel et au rêve, car chez Dupieux, l'onirisme ne passe pas par des trucs de cinéma comme chez un Terry Gilliam ou un Michel Gondry. Il n'use pas d'artifice, d'angle de caméra tarabiscoté, de flou artistique, de ralenti insistant. Bref, de tout ce bric-à-brac sursignifiant la singularité d'un univers. Au contraire, on est frappé par la précision et la sobriété du style, par la volonté d'exposer des couleurs ternes, servies par une lumière toujours très surexposée, très blanchâtre. Une douceur poétique où perce en même temps une inquiétude un peu diffuse, celle de la tranquille banalité des choses, soudain bousculée par un détail incongru.
Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter.
Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement, les postes de télévision deviennent très méchants.
Partout sur Terre?
Ouais.
C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien ça, j'adore. Les gens souffrent?
Ils souffrent à fond.
Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film.
Et je veux un Oscar pour ce gémissement.
Gémissement numéro 45.
Are you the old person that lives in this house?
Yes.
Why should I give a shit?
We need to talk. I think we're the same person.
Je suis en train de perdre les pédales, là.
Y a quoi sur cette putain de cassette? On aimerait savoir.
Give me the tape or I'm gonna call your parents.
Then I'll tell everyone you dress up like a woman.
Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends?
Jason tentera.
Qu'est-ce que tu dis de ça?
Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège.
Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con?
Eh, hey. Kubrick mes couilles.
Kubrick mes couilles.
Kubrick mes couilles. Ça renvoie pour les cinéphiles,
c'est un peu un choc.
Alors pas hurlement, gémissement. Je ne sais pas où la nuance, mais bon, vous la trouverez. Alors réalité, titre combien ironique, hein, ne traite jamais de la frontière entre le réel et l'imaginaire comme beaucoup de films similaires, mais de la logique absurde des rêves et des liens qui se tissent entre eux. Alors tout le projet de réalité tient dans ce drôle de postulat, il s'agit d'une série de rêves qui s'entremêlent et s'entrecroisent et qui finissent par se contaminer. Alors chacun des protagonistes va entrer dans le rêve de l'autre par un effet vertigineux de récit en boucle. Une petite fille est obsédée par la vision d'une cassette vidéo sortant des entrailles d'un sanglier. Un producteur produit un film expérimental d'un ancien documentariste qui met en scène l'histoire de cette petite fille. Un animateur d'une émission culinaire est persuadé d'avoir de l'eczéma alors que tout se déroule dans sa tête. Le directeur d'une école se déguise en femme dans ses rêves ou ceux des autres. Bref, tous ces petits bouts de films, de vie ou de films, hein, invitent le spectateur à se plonger au cœur d'une œuvre non pas expérimentale, hein, mais surréaliste, évoquant furieusement un film de Buñuel qui s'appelle « Le fantôme de la liberté ». Alors, Dupieux laisse provisoirement, je dirais, le non-sens, l'absurde et surtout l'aspect un peu conceptuel de ses précédents longs-métrages hein, pour mieux dérouler un univers plus ambigu et touchant où peut-être pour la première fois depuis son premier film, Steak, les personnages parviennent à exister. Alain Chabat prête sa bonhomie, hein, son physique immédiatement sympathique hein, et très reconnaissable, et puis son air lunaire au monde de Dupieux. Alors, il en ressort un film incarné, sensible et angoissant, une œuvre qui interroge aussi le statut incertain de l'artiste perdu dans ses propres chimères, hein, une sorte de 8,5 de Fellini en miniature, alors sans la grandiloquence de Fellini. Les références nombreuses, notamment aux deux David, hein, Cronenberg et Lynch, ne détraquent jamais le film, ne le rendent jamais bêtement abscon pour quelques happy few. Réalité est vraiment un beau film mélancolique, une des rares réflexions pertinentes sur la logique des rêves sans jamais tomber dans les travers de l'imagerie pseudo-poétique ou l'intellectualisme pénible d'un certain cinéma onirique. Alors Dupieux retombe toujours sur ses pattes et essaie d'être, et ça c'est sa grande qualité, le plus simple et modeste possible. Ben, moi je trouve que c'est un film admirable qu'il faut aller voir, vraiment. C'est son meilleur film d'un réalisateur que je trouvais déjà intéressant. Hein.
Très bien, Réalité donc, de Quentin Dupieux, donc, c'est déjà sorti depuis une semaine et c'est encore à voir partout en France. On va continuer avec le Giallo, Manu, c'est toujours Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Buona fortuna. L'étrange vie de Miss Wars. Des crimes sadiques sont commis par un maniaque. L'insatisfaite Miss Wars vit avec un mari impuissant. Elle rencontre Georges Corot, séduisant playboy. Son ancien amant, Jean, tourne autour d'elle, l'épi. De plus en plus inquiète, elle se demande s'il ne s'agit pas de l'assassin. Alors après une série de documentaires et un western, L'étrange vice de Miss Wars est le premier film ambitieux de Sergio Martino et son premier giallo. L'étrange vice respecte les codes du giallo, hein, mais on a parfois l'impression que Martino filme simultanément deux histoires, imbrique deux formes de récits non pas antinomiques, mais appartenant chacune à une époque distincte. Alors le script signé par Ernesto Castaldi est construit autour d'une ingénieuse machination fortement inspirée par les diaboliques de Georges-Henri Clouzot et de l'inconnu du Nord Express d'Hitchcock. L'étau se resserre autour d'une héroïne de roman photo, victime d'un environnement hostile et anxiogène. Un classicisme désuet mais efficace souffle sur la narration, se greffe sur cette intrigue prosaïque, hein, des éléments plus modernes. Un psychopathe assassine des jeunes femmes lors de meurtres sauvages et ritualisés. Alors la richesse du script tient dans cette conception hybride du genre entre le giallo postmoderne, teinté d'ironie, et le drame criminel fondé sur les motivations matérielles des personnages. Alors captivant de bout en bout, hein, l'étrange vice de Miss Wars évolue dans les sphères les plus raffinées du genre grâce aux soins apportés à la mise en scène. Sergio Martino se révèle un metteur en scène très inspiré, utilisant la caméra comme un personnage à part entière. Alors notamment dans une très belle utilisation des mouvements de caméra très fluides hein, qui longent les murs, les escaliers et qui donnent une atmosphère très particulière au film. Alors grotesque et sublime, raffiné et trivial, le giallo de Martino assume avec un aplomb irrésistible ses partis pris de roman photo à la limite du bon goût. Le vice caché de la pauvre héroïne hein, prête à sourire, mais étant donné que cette dernière est interprétée par l'esquisse Edwige Fenech, tout est pardonné. Habituée au rôle de jolie infirmière ou de fliquette dévêtue, dans des comédies polissonnes, la délicieuse Edwige Fenech se révèle aussi une excellente actrice sous la direction de Martino. Bref, un giallo que je trouve remarquable, un des meilleurs du genre dans les années 70 et qui va engendrer une suite pour le réalisateur puisqu'ils vont réaliser 4 ou 5 autres un peu dans la même lignée et tout aussi excellents les uns que les autres.
Très bien Manu, et bien écoute, c'est une parfaite façon de clôturer ce cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, eh bien, a priori, nous serons tous les trois réunis. Vincent sera de retour. Et nous vous parlerons, eh bien, pourquoi pas de Hungry Heart,
oui,
Manu.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et puis, je continuerai le giallo, certainement, avec un film qui s'appelle Torso.
Très bien, à la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde.
Y a pas de saint, y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.